Quels sont les effets du réchauffement climatique sur les sols gelés de Sibérie? C'est une étude menée par les scientifiques de l'université Paul Sabatier.
Le permafrost de la Sibérie centrale donne des signes de réchauffement significatifs. C'est ce qu'indique la dernière étude internationale dirigée par Laurent Orgogozo, maître de conférence à l'université de Toulouse, au sein du laboratoire Géosciences Environnement Toulouse. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous étiez venu le 10 octobre 2022 pour nous présenter un nouveau simulateur installé à cette université de Toulouse qui permet de mesurer les effets du dégel du pergélisol. Et c'est maintenant le temps des résultats et vous nous les présentez ce matin. On va peut-être commencer, Laurent Orgogozo, par rappeler à nos auditeurs ce qu'est le pergélisol.
Tout à fait. Donc le pergélisol, c'est du sol qui est gelé en profondeur tout au long de l'année de manière permanente. On dit permafrost en anglais, souvent on parle de permafrost aussi. Et c'est un type de sol qu'on rencontre dans les zones froides, bien sûr. Donc principalement aux hautes altitudes, en Himalaya par exemple, et aux hautes latitudes, en Arctique notamment. Le quart des terres émergées de l'hémisphère nord est occupé par les pergélisols. Donc c'est une réalité qui est très importante, qui couvre une très grande partie de notre planète.
Et étudier ce pergélisol, ça permet, si je me souviens bien de ce que vous nous avez expliqué il y a 2 ans, ça permet de voir son évolution. Et si le pergélisol, donc cette couche de glace, ce sol gelé, fond, c'est là un signe de réchauffement climatique.
Tout à fait. Donc, d'une part, le pergélisol, il fond du fait du réchauffement climatique. Et d'autre part, le fait que le pergélisol fonde, ça va avoir des impacts très importants, locaux et globaux.
Oui.
Donc, c'est très important.
C'est très important. Alors, là aussi, vous nous aviez dit que le pergélisol se trouve principalement, vous venez de nous le dire, dans les régions très froides de notre planète, notamment en Sibérie. Mais vous nous aviez dit qu'il y en avait un petit peu dans les Pyrénées, quand même.
C'est vrai. On peut en trouver probablement aux plus hautes altitudes, dans les versants les moins exposés au soleil. Il y en a aussi dans les Alpes. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer dans toutes les zones froides.
Dans toutes les zones froides. Votre simulateur s'appelle Permafoam. Vous dites foam ou foam?
Permafoam, comme Permafoam. La mousse en anglais, foam.
Ah, c'est, comme la mousse, tout à fait. Donc ce simulateur a mesuré les conséquences du réchauffement climatique sur le permafrost. Qu'a-t-il constaté précisément?
Alors, la motivation de faire des simulations numériques avec Permafoam, c'est-à-dire avec un outil qu'on a développé pour être très précis, un outil de simulation à très haute résolution, c'est de diminuer les incertitudes autour du futur du permafrost face au changement climatique. D'après le rapport spécial sur la cryosphère du GIEC, sorti en 2022, en fonction des scénarios de changement climatique et des modèles climatiques utilisés, on peut s'attendre à des évolutions très très différentes du permafrost. Les projections, elles vont de presque pas d'évolution d'ici 2100, les projections du GIEC, donc de ce rapport spécial sur la cryosphère, presque pas d'évolution jusqu'en 2100, à plus de permafrost du tout dès 2080. Donc on a...
Et c'est un extrême à l'autre, là, quand même.
Tout à fait. On a des incertitudes qui sont absolument considérables. Alors, on observe le permafrost qui dégèle depuis des décennies. Ça, c'est une observation, il n'y a aucun doute là-dessus.
Vous avez une idée de la date de début de ce dégel?
Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises parce que je ne me suis pas préparé à cette question exactement, mais ce qu'on peut dire, c'est que le réchauffement climatique, en gros, il a démarré il y a 2 siècles à peu près. Voilà, je ne voudrais pas en dire plus que ça. Ce que je peux vous dire, c'est que dans la littérature, au moins depuis les années 70, on a des observations qui illustrent le fait que ce permafrost est en train de dégeler. En fait, si on regarde sur le très long terme, on peut dire même que le permafrost qui reste à l'heure actuelle, c'est un reste de la dernière glaciation. Donc, quelque part, il est en train de dégeler depuis la dernière glaciation.
Oui, tout simplement. D'accord.
Voilà.
Donc, vous nous disiez que ce dégel, il est soit complètement significatif, il sera complètement significatif en 2100 ou pas du tout.
Et donc, on veut faire des modélisations à haute résolution pour essayer d'avoir des résultats un peu plus précis, savoir réduire un peu l'espace des possibles, donner des contraintes supplémentaires pour améliorer les projections climatiques dont on a besoin pour se préparer et s'adapter au changement climatique. Et c'est pour ça qu'on utilise ces modèles très haute résolution, comme Permafoam, qui sont absolument impossibles à utiliser à l'échelle globale pour faire de la simulation climatique, parce que ce serait, pour plein de raisons, ce serait beaucoup trop long, on n'a pas assez d'informations, enfin, ce ne serait pas possible. Par contre, on se focalise sur quelques sites sur lesquels on a beaucoup de données d'observation de terrain qui nous permettent de faire ces simulations haute résolution de manière pertinente. Et on dit, à ces endroits-là, À quoi on peut s'attendre précisément d'ici à 2100. Et avec ces résultats, on souhaite notamment apporter à la communauté des modélisateurs du climat des informations supplémentaires pour améliorer la prise en compte du permafrost, des impacts des gels du permafrost dans leur simulation climatique.
Laurent Orgogzo, est-ce que les résultats que vous avez constatés sont visibles de la même manière partout?
Le travail qu'on a fait est un travail très local, c'est-à-dire qu'on s'est focalisé sur un bassin versant, ce qu'on a publié à la fin de l'année 2024, là, c'est un bassin versant, une vallée en Sibérie centrale, dans une zone de pergélisol continue, immense en fait, au milieu de la taïga, avec de la forêt de mélèze, c'est pareil, on a des millions de kilomètres carrés à cet endroit-là, et à cet endroit, on a des observations de température des sols sur des années, qui nous permettent de faire nos modélisations. Et donc, nos résultats, ils ont montré que comment le permafrost a évolué dans cet endroit. Et dans le cadre du projet, on étudie aussi trois autres sites, en Arctique suédois, en Sibérie occidentale, en Sibérie orientale. Et donc, le site sur lequel on a publié les résultats récemment, c'est le site de Sibérie centrale. Et l'objectif, c'est en fait, sur ces sites précis, représentatifs de grandes zones de l'Arctique, de donner plus de contraintes, plus d'informations sur ce qui va se produire, des informations plus précises, et ensuite d'intégrer ça, si possible, dans les modèles climatiques, enfin, autant que possible, de la meilleure manière possible, dans les modèles climatiques. Mais ça, c'est l'intégration dans les modèles climatiques, évidemment, c'est le travail futur, c'est ce qui reste à faire.
Vous avez mentionné la présence de mélèze. Est-ce que ces arbres ont une influence positive ou négative sur l'évolution du permafrost?
Tout à fait. En fait, on a fait un premier travail en 2019 sur le site en question, le site de Sibérie centrale, en Kuling Dakan, en conditions climatiques actuelles, pour étudier l'effet des arbres. Et on a montré effectivement que la couverture forestière est très importante, et même son état, c'est-à-dire c'est du mélèze partout, mais sur les faces nord, les mélèzes sont plus petits, plus nombreux et plus petits. Et sur les faces sud, ils sont en meilleure santé, ils ont plus de soleil, ils sont plus gros, ils ont un enracinement plus profond. Et du coup, les conditions de permafrost changent complètement, face sud, face nord, parce que le prélèvement d'eau par les racines des mélèzes est différent, comme les mélèzes sont différents. Et donc, le transfert thermique ensuite dans le sol est différent, et donc tout change. L'épaisseur de couche active, notamment, c'est l'épaisseur qui dégèle en été, dans laquelle les racines peuvent se développer, dans laquelle la vie peut se développer, etc. Cette épaisseur de couche active, elle est quasiment du simple au double, face sud, face nord.
Oui.
Donc 1,20 m face sud et quelques dizaines de centimètres face nord. Donc ça fait une différence tout à fait considérable.
Ah bah oui, c'est énorme, oui.
Lié aux arbres.
Vous avez mentionné cette date butoir de 2100. Est-ce qu'il peut y avoir une évolution positive ou est-ce que ça peut s'aggraver s'il y a une prise en compte ou une prise de conscience ou en tout cas des effets sur le réchauffement climatique qui seraient envisagés?
Alors d'après, en fait, ce que les simulations qu'on a faites, on a utilisé comme données d'entrée, on a utilisé les modèles du GIEC, quatre scénarios du GIEC. Le modèle, alors bon, la nomenclature, ça intéressera probablement personne, mais il y a un modèle qui est le modèle très optimiste où on est neutre en émissions de carbone dès 2050 et où il y a une activité solaire qui décroît et où du coup on a un réchauffement climatique minimal. Et à l'autre extrême, on a le scénario business as usual avec rien qui change au niveau de nos émissions et une activité solaire intense. Donc en fait, dans les quatre scénarios qu'on a considérés, il y a le cas optimiste, on va dire, où le réchauffement est minimal, et le cas pessimiste où il est maximal. Et on voit qu'on a des résultats significatifs dans tous les cas. Mais évidemment, c'est beaucoup plus important dans le cas du scénario 8.5 où on a plus 4 degrés à l'échelle de la planète et encore plus sur place.
Vous êtes partie des données du GIEC. Ces données, elles vous sont fournies comment? Elles proviennent de quoi, en fait?
Alors, il y a un exercice de modélisation climatique qui s'appelle le CMYP. Donc, ça doit être intercomparaison de modèles climatiques en anglais, quelque chose comme ça. Où des équipes du monde entier. Donc là, on est au sixième round, CMYP 6. Des équipes climatiques de modélisation climatique du monde entier font tourner leurs modèles pour les différents scénarios et donnent leurs résultats, et après c'est stocké sur des sites des sites internet, des serveurs sur lesquels la communauté peut aller les chercher. Donc il y a des atlas, on peut aller chercher région par région, scénario par scénario, L'évolution des températures, des précipitations, évidemment, on parle beaucoup de température, mais l'évolution des précipitations est très très importante aussi, ouais. Et des pluies. Donc voilà, on a besoin de toutes ces informations et qui nous sont délivrées par la communauté des simulateurs du climat.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Laurent Orgoguzo, comment s'est effectuée précisément votre analyse ?
Alors, on a développé un outil qui permet de résoudre les équations qui gouvernent les transferts d'eau et de chaleur dans les sols, couplés, parce que l'eau, en se déplaçant, transporte de la chaleur. Si le sol est gelé, l'eau peut plus se déplacer. Donc, on doit faire les deux en même temps. Les deux sont liés, intimement liés. Et on a développé un outil de modélisation qui résout ces équations dans une structure open source qui s'appelle OpenFOAM, qui est très efficace pour utiliser les supercalculateurs et qui est maintenue de manière régulière pour utiliser les supercalculateurs de dernière génération. Et donc avec cet outil PermaFOAM, donc le simulateur de permafrost développé dans OpenFOAM, on a pu utiliser les supercalculateurs nationaux, notamment le supercalculateur IREN du très grand centre de calcul du CEA. Et en mobilisant des millions d'heures de calcul, on a pu effectuer les simulations d'évolution du permafrost sur la cooling d'Akan. Donc vraiment l'idée c'est ça, utiliser des méthodologies mécanistes avec des supercalculateurs pour arriver à des résultats de très haute résolution, très haute précision.
Est-ce que l'intelligence artificielle vous aide dans ce genre d'analyse?
Alors en fait, on vient de soumettre un projet avec des collègues pour utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider à faire plus de simulations. Donc ça ne peut pas remplacer en fait la simulation mécaniste, mais ça peut permettre d'étendre les résultats des simulations mécanistes de manière très efficace. Donc on voudrait faire ça pour pouvoir traiter beaucoup plus de scénarios. Vous voyez là, les résultats qui ont conduit à la publication de 2024, ça a coûté presque 2 millions d'heures de calcul. Et ça, c'est les résultats qui ont marché. Avant, en fait, on a dépensé 23 millions d'heures de calcul en développement, en essai, etc. Donc évidemment, ça, pour avoir le résultat sur 4 scénarios de changement climatique pour un site. Donc avec l'intelligence artificielle, on aimerait utiliser toute cette connaissance-là de manière efficace pour pouvoir le faire beaucoup plus rapidement sur des sites beaucoup plus nombreux.
Oui. Est-ce que vous
On a demandé l'argent pour pouvoir le faire. On ne sait pas si on va pouvoir le faire.
C'est encore en cours. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner, pour terminer, les risques de ce dégel du pergélisol, donc de ce sol gelé, déjà pour notre planète et puis peut-être pour notre région aussi?
Alors, ce qu'on a inféré avec notre modèle, c'est que dans le cas du réchauffement climatique le plus intense, on aurait une hausse de 60% de la couche active, par exemple. Donc ça serait comme si le site se déplaçait de 350 km vers le sud en conditions climatiques actuelles. Donc c'est un impact très important qui va avoir un impact fort sur les écosystèmes et des conséquences en cascade sur les milieux naturels. Donc ça, c'est un premier point, des impacts très importants sur l'environnement. Ensuite, il y a des impacts pour l'homme. Localement, quand le pergélisol fond, dans le pergélisol il y a des lentilles de glace d'eau pure, et donc ça fait que les terrains sont déstabilisés. Ça peut être très dangereux pour les routes, les aéroports, enfin toutes les infrastructures humaines. Donc notamment, ça peut poser des problèmes aux communautés au nord qui dépendent de ces infrastructures pour qu'on leur amène par exemple à manger, parce qu'ils ne peuvent rien cultiver sur place. Des impacts locaux très importants, des impacts globaux très importants. Alors bien sûr, le changement climatique, le pergélisol contient énormément de matière organique gelée qui donc ne peut pas être dégradée et remise dans l'atmosphère sous forme de gaz à effet de serre. Avec le dégel, on pourrait libérer une quantité très importante de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et puis ensuite, il y a des questions économiques et géopolitiques. Par exemple, l'ouverture de la route du Nord à travers l'océan Arctique. Pour être sécurisé, il faudrait des installations portuaires le long de la côte à développer sur du permafrost.
Voilà. Mais si le sol bouge,
évidemment,
la route ne va pas tenir.
Ou en tout cas, il faut le prendre en compte pour le faire de manière adéquate.
Voilà, toutes ces conséquences que vous regardez et vous surveillez. Merci beaucoup, Laurent Orgoguzo, d'être venu nous en parler ce matin.
Merci.